Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International pour sa seconde et dernière émission sur, pour la promotion et la défense des
dernière
droits
émission
humains
du mois Didier.
De novembre.
Tu vas faire peur.
Non, je n'avais pas fini ma phrase, c'était un petit suspense. Mais la dernière émission du mois de novembre, et on sera bien sûr présent le mois prochain sur pour deux mardis du mois sur l'antenne de Principe Actif. Voilà, et pour l'animer avec moi ce soir, cette émission, il y a Edith.
Bonsoir.
Et il devait y avoir notre amie Claire Lys, que vous connaissez tous et toutes, mais qui malheureusement n'est pas en très bonne forme, donc elle a dû annuler malheureusement tout à l'heure sa venue à l'émission.
On lui fait un gros
bisou
de loin. On lui
fait un gros bisou et on lui souhaite de se reposer et un bon rétablissement, et on la retrouvera avec plaisir très vite. Voilà. Donc, pour commencer l'émission, on va consacrer une bonne partie de l'émission à notre campagne de promotion et de défense des droits humains, enfin là surtout de défense d'ailleurs, qui s'appelle 10 jours pour signer, comme tous les ans au mois de novembre. Donc, on va y consacrer une grande partie. Mais avant d'en parler, je voulais vous faire une petite information sur des dénigrements dans les médias et la presse française dont souffre Amnesty International France depuis quelques temps. Dénigrement autour des prises de position qui sont faites par notre ONG, donc Amnesty International, autour du conflit entre Israël et Gaza, et plus spécifiquement entre Israël et le Hamas. Donc, puisque il nous a été reproché, très vivement d'ailleurs dans certains articles de presse, même assez violemment, il nous a été reproché de ne pas vouloir utiliser à l'encontre du Hamas le terme de terroriste. Alors on a beau expliquer, le président d'Amnesty International, Jean-Claude Samouillet, différentes personnes qui travaillent au secrétariat national ont fait les mêmes déclarations sur différentes chaînes de télévision, mais visiblement ceux qui ne veulent pas comprendre se ferment les oreilles. On explique que si on n'emploie pas le terme de terroriste pour les actions qui ont été commises par le Hamas, c'est tout simplement parce que le terme de terroriste n'est pas reconnu par le droit international. Il n'a pas de valeur juridique par le droit international, et que c'est sur ce droit international que se basent toutes les actions et toutes les revendications d'Amnesty International, qui est une ONG mondiale. Donc, on n'utilise pas le terme de terroriste. Mais deux choses, on reconnaît sans aucun problème que les gens qui veulent utiliser, ou les médias qui veulent utiliser ce terme de terroriste, ont parfaitement le droit de le faire, et que deuxièmement, on utilise à l'encontre du Hamas comme vis-à-vis d'autres organisations entre guillemets terroristes à travers le monde, le terme de groupe armé se livrant à des crimes de guerre ou pire à des crimes contre l'humanité. Donc voilà, la formule est un petit peu plus longue que terroriste, mais pour nous elle est beaucoup plus explicite et surtout elle se réfère au droit international. Donc pour ne pas avoir voulu dans les communiqués officiels utiliser le terme de terroriste, on nous accuse, et ça a été le cas dans l'Express, pour ne pas le citer, l'hebdomadaire L'Express, d'être à la solde du Hamas, pourquoi pas, et à la solde de M. Poutine. On ne rentrera pas dans les détails, pourquoi. Alors bien évidemment que sous ces accusations d'être à la solde du Hamas ou des autorités du gouvernement russe et de Poutine sont parfaitement déplacées et sont même insultantes pour les gens qui travaillent pour Amnesty International et pour tout notre travail qui est fait depuis plus de 60 ans maintenant. Donc non, nous sommes à la solde et manipulés par personne. Voilà. Si on n'emploie pas le terme de terroriste, ce n'est pas spécifique au Hamas, c'est pour toutes les organisations qui se livrent à ce genre de crime, parce que ce terme n'est pas reconnu en droit international, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire effectivement qu'on a quelques accointances ou quelques... comment dire, qu'on fermerait les yeux sur des crimes commis par qui que ce soit.
Et d'un côté ou de l'autre.
rappelle même, et c'est dans nos émissions, vous l'avez entendu, on rappelle même que de toute façon, Amnesty dénonce aussi des crimes qui ne font pas la une de l'actualité, comme République démocratique du Congo ou comme en Éthiopie récemment. Donc nous, on ne se contente pas de dénoncer ce qui fait la une de l'actualité dans les médias, mais on va beaucoup plus loin.
Ouais, la problématique, moi j'ai vu les articles que dont tu parles, l'Express, je crois que c'est le Figaro aussi.
Le Figaro aussi a publié, mais c'était moins virulent, violent.
D'un terme comme ça, c'est vraiment de dérouler tout un tissu de mensonges. Et ça, c'est quand même vraiment inquiétant, quoi, parce que l'article de l'Express, il y a rien qui tient debout derrière, quoi. Effectivement, à la solde de Poutine. Enfin bon, franchement, les auditeurs de Principe Actif doivent savoir que notre ami Poutine, quand on en parle, c'est quand même pas pour lui faire des fleurs, quoi.
Ça fait des années qu'on dénonce ces exactions, hein, Monsieur Poutine.
Et on les dénonce aussi au niveau d'Israël avec les bombardements civils. Enfin voilà, les choses sont claires. Les termes de loi internationale, c'est ça qui fait la base des recommandations et des critiques et aussi d'Amnesty, quoi. On se base sur ça et sur ça, c'est clair. Il suffit d'aller les voir.
Voilà. Alors on a beau expliquer ce que je viens de vous expliquer, c'est très simple à comprendre. On a beau expliquer ça, effectivement, certains médias continuent à considérer qu'on joue un double jeu et qu'on ne veut pas, pour reprendre le titre de l'article de l'Express, qu'on ne veut pas appeler un chat un chat. Or, ça fait plus de 60 ans qu'Amnesty appelle un chat un chat. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, on va continuer sur cette campagne 10 jours pour signer qui nous occupera une grande partie du mois de décembre, comme tous les ans. Donc, on rappelle que c'est la plus grande campagne de mobilisation pour la défense des droits humains qui est organisée à travers le monde. Et donc, je vais simplement vous rappeler, avant de commencer à vous expliquer les différents cas sur lesquels on va travailler cette année, comment tout ça a commencé, cette opération 10 jours pour signer, qui existe depuis 2001.
Qu'est-ce qui se passe en décembre, d'ailleurs? C'est pas une petite date importante.
C'est la date anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains, voilà, qui a été signée le 10 décembre 1948 au Palais de Chaillot, à Paris.
Ce qui explique cette campagne.
Tout à fait. Et qui est, parmi les grands textes défendant les droits humains sur lesquels on se réfère, cette déclaration est bien sûr essentielle. Alors, pour vous expliquer l'origine de cette mobilisation, le 10 décembre 2001, donc ça fait déjà quelques années, à Varsovie, en Pologne, des militants et militantes d'Amnesty International, révoltés par les violations des droits humains à travers le monde, décident de mener une action d'envergure. Durant 24 heures, ils écrivent 2000 lettres en faveur d'hommes et de femmes en danger et les envoient au gouvernement des États responsables de ces injustices. L'événement est repris mondialement. L'esprit de la campagne de signature, appelée 10 jours pour signer, était né. Voilà. Donc, qu'est-ce que représente effectivement cette campagne? Eh bien, si on se réfère à ce qui s'est passé l'année dernière, donc, c'est avant tout une campagne mondiale, comme on vous le disait, d'Amnesty International. Et en 2022, 67 sections, on vous rappelle qu'Amnesty est présent à peu près officiellement dans 70 pays à peu près à l'heure actuelle. Donc 67 sections nationales d'Amnesty International ont mené près de 5 320 000 actions, signatures de pétitions, actions de solidarité, lettres d'interpellation des autorités, etc., à travers le monde pour les 10 situations défendues. En France, 95 000 personnes se sont mobilisées et ont réalisé 640 000 actions pour ces femmes et ces hommes en danger. Donc cette année, notre campagne se déroulera du 30 novembre au 11 décembre. Bon, petite parenthèse, en fait, pour nous, pour une question de calendrier, elle continuera un peu après le 11 décembre. Mais enfin, ça, c'est pas l'essentiel. Et on va vous citer effectivement les cas qu'on va défendre cette année en vous disant qu'à la fin, on va aussi vous citer les plus récentes victoires qu'on a obtenues par rapport à ces mobilisations, car oui, bien sûr, ces mobilisations servent à quelque chose et nous permettent d'obtenir effectivement des avancées et des victoires en termes de droits humains. Mais je crois que c'est Edith qui doit vous citer les premiers cas.
Voilà, enfin, on s'est partagé.
Vous communiquez les premiers cas.
Voilà, on s'est partagé la lecture des cas pour que vous ayez deux voix différentes et que ça soit un peu plus dynamique. On va dire ça. Bon, Clairlys, tu nous manques. On comptait le faire à trois.
Ben oui, mais bon. Clairlys se repose et
voilà,
c'est l'essentiel.
Voilà, on va voir ça. Alors, Le premier cas, eh bien, moi je vous le dis tout de suite, c'est quelqu'un qui est décédé. C'est Thulani Maseko. Et le pays, quand j'ai vu le nom du pays, c'est l'Eswatini. Je me suis dit, tiens, celui-là, je n'ai pas connaissance de savoir où ça se trouve. Donc, on a été voir, Didier a fait la même chose que moi. Eh bien, l'Eswatini, ça s'appelait, il y a peu de temps encore, le Swaziland. Donc, Swaziland, tout petit pays à côté de l'Afrique du Sud, en bas. Et Swaziland, c'est le nom après la colonisation et le roi, en 2018, a décidé de reprendre le nom d'origine, donc Eswatini, ce qui veut dire le pays des Swazis. Voilà, pour petit point culture, parce que quand même, bon, ça peut étonner en se disant, mais ce n'est pas un pays inventé, là, qu'est-ce qui se passe?
Un pays inventé.
C'est assez joli, Eswatini, mais je ne connaissais pas.
Amnesty défend des droits humains dans notre pays, dans un pays inventé.
Alors, malheureusement, Thulani Maseko, donc c'était un... il a été assassiné pour son engagement en faveur des droits humains. Et ses proches demandent justice pour lui. C'était un avocat défenseur des droits humains qui s'est battu sans relâche pour faire de l'Eswatini un pays plus libre. Thulani a ouvertement critiqué les lois répressives et la violence dont l'État faisait usage pour étouffer les manifestations pacifiques. En 2014, il a été arrêté, inculpé d'outrage à l'autorité judiciaire, après avoir écrit deux articles dénonçant le manque d'indépendance de la justice. Il présidait un réseau de partis politiques et d'organisations de la société civile réclamant des réformes démocratiques dans son pays lorsqu'il a été abattu le 21 janvier dernier par des tireurs inconnus. Quelques heures auparavant, le roi avait prononcé un discours affirmant que on s'occuperait des personnes réclamant une réforme démocratique. Et à ce jour, aucune enquête impartiale et indépendante n'a été menée depuis pour identifier et traduire en justice les auteurs de ces crimes. Nous demandons aux autorités d'Eswatini de mettre en place une enquête efficace sur l'homicide de Thulani Maseko, de traduire en justice les suspects dans le cadre d'un procès équitable et de donner accès à la famille de Thulani Maseko, à la justice et à des recours effectifs. Alors, deuxième personne choisie pour notre campagne 10 jours pour signer, ça se passe en Australie. Ce sont deux personnes, donc on les appelle Ong Pabai ou Ong Paul, et leur nom c'est Wadwam Pabai Pabai, Wadwam Paul Kabai. Ils risquent de tout perdre à cause du dérèglement climatique et de l'inaction de l'État. Pour que l'État australien reconnaisse sa responsabilité dans la crise climatique qui frappe les îles du détroit de Torres et agisse concrètement pour protéger leurs terres, Oncle Pabai et Oncle Paul, chefs des Premières Nations, se sont lancés en octobre 2021 dans une action légale, historique, contre le gouvernement de l'Australie pour leur inaction face au dérèglement climatique. Dans le détroit de Torres, le niveau de la mer augmente deux fois plus vite que la moyenne mondiale, ce qui remet en cause les droits à l'autodétermination, à l'éducation ou encore au logement des peuples autochtones qui y résident depuis des siècles. Pour préserver les droits et les terres de leur communauté, Ong Pabai et Oncle Paul entrent dans une deuxième phase de leur procès entre le 6 et le 27 novembre 2023, avant que la décision de la justice ne soit donnée en 2024. Nous demandons aux autorités australiennes de mettre en place des actions urgentes contre le dérèglement climatique.
Voilà, comme quoi, c'est une petite parenthèse, on va en parler tout à l'heure aussi dans l'émission, mais de la prochaine COP, mais comme quoi le dérèglement climatique a déjà des conséquences en termes de droits humains.
Les réfugiés climatiques, ce n'est pas pour de faux. Simplement, on ne les voit pas encore de trop en Europe.
C'est vrai, mais ça va venir. Ouais. Donc, je continue. Donc, le cas suivant pour lequel on se bat dans le cas des 10 jours pour signer 2023, ça se passe au Brésil et on soutient Ana Maria Santos Cruz. Harcelée pour son combat en faveur de son fils assassiné, Ana Maria Santos Cruz, femme noire, militante et défenseuse des droits humains, a perdu son jeune fils Pedro Henrique, assassiné par la police selon sa compagne, témoin du crime. En tant que militant pour les droits humains, notamment contre le racisme, il a organisé des marches pour la paix pour dénoncer les violences policières, en particulier à l'encontre des personnes noires. En raison de son militantisme, des policiers ont commencé à suivre, menacer et attaquer Pedro. Le 27 décembre 2018, il a été assassiné. Les agents soupçonnés de l'avoir tué ont été inculpés en 2019. Cependant, ils sont encore actifs dans la police. L'enquête sur cet homicide n'a pas été conclue et le procès n'a pas encore débuté. Anna Maria se bat pour que les responsables répondent de leurs actes et que les violences policières cessent. Ses demandes de justice et de réparation lui valent d'être constamment harcelées. Nous demandons donc aux autorités brésiliennes de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir une enquête indépendante, impartiale et approfondie sur l'homicide de Pedro Henrique et d'amener les responsables devant la justice. Le cas suivant, juste le temps de tourner la page.
Oui, parce que Didier, il a choisi le petit livret, mais moi, je les ai imprimés sur des pages les unes à côté des autres.
Oui, c'est cela. Ça y est, j'ai tourné la page. Donc, le cas suivant, alors ça va être encore un nom, comme souvent avec Amnesty, un nom assez difficile à prononcer.
C'est pas avec Amnesty, c'est le nom des personnes.
C'est le nom des personnes, mais souvent, comme Amnesty s'intéresse à tous les pays du monde, il y a souvent des noms un peu compliqués.
Eh bien, ce nom-là, je l'ai évoqué il y a pas longtemps.
Oui, effectivement.
À une dernière radio.
Edith, vous en avez déjà parlé. Donc, ceux qui nous écoutent et qui ont bonne mémoire, ça va leur dire quelque chose. Ça concerne le Canada. Et c'est la nation autochtone Wet'suwet'en. Persécutée car elle défend son territoire. Les membres de la nation autochtone Wet'suwet'en s'opposent à la construction d'un gazoduc sur leur terre ancestrale située en Colombie-Britannique. L'entreprise TC Energy, soutenue par le gouvernement canadien, a d'ores et déjà entamé les travaux de son projet Coastal GasLink sans respecter les exigences du droit international sur l'obtention du consentement préalable, libre et éclairé des populations autochtones concernées par ce type de projet. Le chantier a déjà entraîné des dommages à la forêt, empêchant la nation Wet'suwet'en de pratiquer ses activités traditionnelles telles que la chasse ou la pêche. Depuis septembre 2021, 20 défenseurs de l'environnement de la nation Wet'suwet'en ont été accusés d'avoir désobéi à un ordre de se tenir à l'écart des sites de construction, alors que ceux-ci sont situés sur leurs territoires ancestraux non cédés de la nation. 9 d'entre eux, qui seront jugés entre avril 2023 et janvier 2024, risquent la prison. Nous demandons aux autorités canadiennes d'abandonner immédiatement les poursuites engagées contre les défenseurs de la terre qui s'opposent à la construction du gazoduc Coastal GasLink et de faire cesser l'exploitation des terres des Wet'suwet'en sans leur consentement préalable, libre et éclairé. Et donc, je me permets un petit rappel. Donc, dans cette présentation, on rappelle que les travaux ont commencé, les travaux de cette compagnie pétrolière ont commencé sans même l'enquête préalable d'accord des populations concernées. Voilà. Ce qui, en termes de droit international, on en parlait tout à l'heure, est parfaitement illégal. Donc c'est maintenant Edith qui va vous présenter le cas suivant.
Je continue pour une autre personne pour laquelle on va appeler à signature. C'est Rita Karazaktova. Elle habite au Kirghizistan. Elle risque 15 ans de prison pour avoir manifesté pacifiquement. Spécialiste de gouvernance civique, Rita Karazaktova est une défenseure des droits humains qui a consacré sa vie à donner des conseils juridiques indépendants aux personnes dont les droits ont été violés par un système judiciaire corrompu. Elle dirige l'Institut d'analyse publique, une entité non gouvernementale, et est membre du Mouvement démocratique uni du Kirghizistan qui lutte contre la pauvreté et en faveur des institutions démocratiques. Mais depuis octobre 2022, sa vie a basculé. Elle a été arrêtée, en même temps que 26 autres personnes pour avoir participé à des manifestations pacifiques contre un accord frontalier controversé avec l'Ouzbékistan qui pourrait limiter l'accès à l'eau de la population kirghize. Elle a passé plusieurs mois détenue dans une cellule exiguë sans pouvoir accéder à des soins médicaux ni voir sa famille ou parler avec elle. Rita est aujourd'hui assignée à résidence et accusée d'avoir cherché à renverser le gouvernement par la force, infraction passive de 15 ans de prison. Nous demandons aux autorités kirghizes de lever l'assignation à résidence, abandonner toutes les charges retenues contre Rita, garantir qu'elle puisse mener ses actions en faveur des droits humains sans craindre des représailles. Alors, il va nous rester encore 5 personnes à vous présenter, mais petite pause musicale.
Petite pause musicale. Allez. On se retrouve juste après. De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International, pour la suite de son émission pour la promotion et la défense des droits humains. Et on vient d'écouter Anne Passeo, qui sera en concert le 8 décembre à Évreux. On est partenaire du spectacle, du Tangramme. Et le deuxième morceau de tout à l'heure dans l'émission sera également
ça sera aussi Anne Passeo. Didier, il a trouvé que ça allait faire vraiment très bien pour l'émission.
Son dernier disque qui s'appelle Chaman est absolument magnifique. Avis personnel, mais je vous le recommande. Voilà.
Alors, dépêchez-vous, il reste peut-être encore quelques places.
Oui, mais là, il faut se dépêcher parce qu'apparemment, ça, c'est quasiment,
c'était bien rempli,
c'est quasiment complet.
Allez,
on en reparlera tout à l'heure. Donc, suite des cas défendus dans les 10 jours pour signer.
À toi.
Donc, on va aller au Myanmar, anciennement Birmanie, et on va vous parler de Mong, alors Soye Dola, je suis désolé si ce n'est pas bien prononcé. Il s'attaque à Facebook pour son rôle dans les atrocités au Myanmar. Ça aussi, on en a déjà parlé dans des émissions un peu plus anciennes. Réécoutez les podcasts. Saye Dola, un réfugié rohingya de 22 ans et jeune militant, réside actuellement dans le camp de réfugiés de Cox Bazar, dans le sud du Bangladesh. En 2017, avec sa famille, il a fui le Myanmar pour échapper au nettoyage ethnique perpétré contre la minorité musulmane rohingya par les forces de sécurité de l'État du Myanmar. Depuis lors, il vit dans un camp de réfugiés et réclame justice pour sa communauté. Il demande notamment 1 million de dollars de réparation à Meta, maison mère de Facebook, au titre du rôle joué par Facebook dans les atrocités commises. Il accuse l'entreprise de n'avoir pas empêché les posts incitant à la haine contre la population musulmane. Décidément. Cette réparation permettrait ainsi d'améliorer le sort des réfugiés et de financer des projets éducatifs à Cox's Bazar. Jusqu'à présent, Meta n'a pas répondu aux demandes des communautés touchées par ces pratiques commerciales sans scrupules, argumentant que Facebook ne s'engage pas directement dans des activités philanthropiques.
Facile.
Oui. Donc nous demandons donc à l'entreprise Meta, donc Facebook en l'occurrence, de reconnaître la responsabilité de la contribution de l'entreprise aux atrocités commises au Myanmar, d'accorder des réparations effectives à Soyedola et aux communautés Rohingyas concernées. Alors on va passer dans un autre pays sur le globe terrestre, c'est la Tunisie, et on va défendre, dans ses 10 jours pour signer, Shaima Issa. Elle est persécutée pour son engagement politique. Shaima Issa est une militante tunisienne de premier plan, figure du Front de salut national, l'une des principales coalitions d'opposition de Tunisie. En juillet 2021, elle est l'une des premières à s'élever publiquement contre le président tunisien Kais Saied lorsqu'il invoque des pouvoirs d'exception pour suspendre le Parlement, limoger le chef du gouvernement et prendre le contrôle exécutif du pays. Arrêtée le 22 février 2023, Shaima Issa fait actuellement l'objet d'une enquête pour complot présumé après avoir participé avec d'autres figures de l'opposition tunisienne à une rencontre avec des diplomates étrangers pour débattre de la situation politique en Tunisie. Elle est aussi poursuivie par le tribunal militaire pour des propos tenus sur une station de radio. Si elle est jugée et déclarée coupable, elle risque des dizaines d'années d'emprisonnement. Nous demandons donc aux autorités tunisiennes d'abandonner immédiatement toutes les restrictions et charges retenues contre Shaima Issa et ne pas prendre de nouvelles mesures qui menacent son droit à la liberté d'expression. Et là, petite parenthèse très rapide, on vous rappelle aussi qu'on a déjà parlé des dérives autoritaires du président actuel en Tunisie, Kais Saied, dans d'autres émissions, et entre autres pour des appels qu'il avait faits, qui sont des appels à des actions racistes.
Voilà. La personne suivante, effectivement, c'est en Pologne, et on en a aussi déjà parlé,
oui,
par rapport aux droits des femmes et aux droits à l'avortement. Donc c'est Justyna Wyszyńska. Pareil, prononciation non garantie.
Surtout le... Comment tu l'as appelé ?
J'ai dit Wyszyńska.
Wyszyńska.
C'est un nom polonais. Pas mal quand même, j'ai mis toutes les lettres.
Hein. C'est plein de W et de choses comme ça.
Alors, voilà. cette femme est poursuivie pour son combat en faveur du droit à l'avortement. Justyna Wyszyńska est une militante qui défend le droit à l'avortement en Pologne, qui est interdit dans ce pays. Elle est l'une des fondatrices d'Abortion Dream Team, un collectif qui se mobilise pour que toutes les personnes qui souhaitent avorter puissent avoir accès à des informations médicales, être soutenues et accompagnées. En mars 2023, Justyna a été condamnée à 8 mois de travaux d'intérêt général pour avoir aidé une femme enceinte à obtenir des pilules abortives. Une pratique illégale au regard des articles 152.2 du Code pénal, lequel criminalise toute personne qui aide à recourir à un avortement. Justyna est harcelée par les autorités de son pays, dont la loi sur l'avortement est l'une des plus restrictives d'Europe. Elle a fait appel de la décision. Nous demandons aux autorités polonaises de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la condamnation injuste de Justyna Wyszyńska soit annulée. Veillez à ce qu'elle soit en mesure de mener son travail sans persécution ni répression. Alors, nous allons en Afrique du Sud pour Tapelo Maapi et le mouvement Abalali Bazem Jong Dolo.
Ma pauvre Edith.
J'ai tout prononcé aussi.
Oui, ma pauvre Edith. Alors, c'est que Tapelo, des noms imprononçables.
Voilà. Il est menacé parce qu'il se bat pour les droits fondamentaux de sa communauté. Tapelo Maapi est secrétaire général du mouvement ABM, un mouvement qui milite notamment pour les droits fonciers et l'accès au logement des personnes vivant dans des quartiers informels en Afrique du Sud. Depuis 2021, il est forcé de vivre dans la clandestinité car sa vie est menacée. Les actions du mouvement se sont heurtées non seulement à de la résistance, mais aussi à des menaces, à du harcèlement et à de l'intimidation de la part des autorités qui ont également incité à la violence à leur encontre. Ils ont été victimes de dégradations de leur domicile, de harcèlement, de violence, de tentatives de meurtre et même de meurtre. Selon ABM, 25 de leurs membres ont été tués depuis la création du mouvement en 2005. Tapelo et le mouvement demandent des enquêtes efficaces sur le harcèlement, les homicides des membres du mouvement, ainsi que de pouvoir exercer leur travail de défense des droits humains librement et en sécurité. Nous demandons aux autorités sud-africaines de ouvrir une enquête efficace, approfondie, impartiale et transparente sur le harcèlement et les homicides des membres de l'ABM, visant à amener les responsables présumés devant la justice dans le cadre de procès équitables et à mettre un terme à toutes ces attaques. Alors le dixième personnage pour qui on va signer, Didier ?
C'est ça, donc il s'appelle Ahmed Mansour et c'est un ressortissant des Émirats Arabes Unis. 10 ans de prison pour avoir défendu les droits humains. Ahmed Mansour documentait depuis 2005 la situation des droits humains aux Émirats Arabes Unis. Ce poète, blogueur et défenseur des droits humains faisait souvent part de ses préoccupations face aux arrestations, aux actes de torture et aux procès inéquitables subis par les personnes qui s'élèvent contre le pouvoir en place, notamment sur les réseaux sociaux. En mars 2017, les forces de sécurité des Émirats Arabes Unis effectuent une descente chez lui et l'arrêtent. Pendant plus d'un an, personne, pas même sa famille, ne sait où il est détenu. En mai 2018, Ahmed Mansour est condamné à 10 ans de prison, entre autres pour outrage aux Émirats Arabes Unis et à leurs symboles. Il est depuis placé en détention à l'isolement, sans avoir le droit de lire, ni de regarder la télévision, ni d'accéder à des espaces extérieurs. Enfermé dans une cellule ne comportant ni lit ni matelas, il n'a pas accès aux soins médicaux et ne peut pas voir sa famille. Petite parenthèse personnelle, tout ce que je viens de vous expliquer sur ces conditions d'enfermement sont absolument illégales au regard du droit international et constituent des actes de torture. Nous demandons aux autorités des Émirats Arabes Unis de libérer immédiatement et sans condition Ahmed Mansour et annuler sa peine, garantir des conditions de détention conformes aux normes internationales et s'assurer qu'il ne soit pas soumis à des actes de torture ni à d'autres mauvais traitements en attendant sa libération, s'assurer qu'il puisse entrer immédiatement et régulièrement en contact avec sa famille et bénéficier de tous les soins médicaux dont il pourrait avoir besoin. Voilà donc les 10 cas sur lesquels nous allons agir pendant ce mois de décembre, pendant la campagne 10 jours pour signer. Alors on vous signale que ces cas, vous pouvez déjà les signer sur le site, les pétitions, les signer sur le site d'Amnesty International France, amnesty.fr. Ils sont déjà présentés depuis aujourd'hui, effectivement. Donc n'hésitez pas à y aller. Mais vous pouvez aussi venir nous voir. On vous le dira tout à l'heure dans les infos locales.
On sera présent, comme d'habitude.
Voilà.
Il y a des moments
où on aura venir
plaisir
nous voir
à vous rencontrer, à vous présenter
pour signer avec
les
nous.
Pétitions.
Voilà.
Voilà, parce que c'est vous tous qui faites le succès de ces campagnes. Hein. Nous, on vous présente, les cas ont été choisis, vous voyez un petit peu, il y a plusieurs violations des droits humains avec des choses qui sont vraiment d'actualité au niveau du climat, au niveau des communautés autochtones et puis aussi vraiment des États qui emprisonnent, voire qui tuent des gens de façon complètement autoritaire. Et injuste.
Voilà. Mais donc, on vous disait en présentant la campagne 10 jours pour signer, qu'on allait aussi vous donner quelques nouvelles sur ce qu'on obtient à travers cette campagne. À quoi ça sert
ce Ça marche.
Tout ce qu'on
ça
va
marche
faire.
Pour certains. Pour d'autres, c'est plus compliqué.
Ah, ça marche pas à tous les coups, c'est
non,
sûr.
Mais là, on imagine que ces personnes-là, donc qui ont été choisies, ils vont avoir un nombre quand même très important de signatures. C'est ça qui fait levier.
Des millions. Des millions.
Alors, l'année dernière, qu'est-ce qu'on peut avoir comme personne? Est-ce qu'on a des personnes pour qui ça il y a eu des libérations? Eh bien oui. On va vous parler du Zimbabwe. Alors c'est Cecilia Chimbiri et Johanna Mambom. Je ne sais pas si vous en rappelez, puisque ceux qui sont venus signer ou qui l'ont fait sur Internet, que vous nous ont rencontrés. Donc c'était 2 militantes qui avaient été battues, agressées sexuellement, qui avaient un procès donc au Zimbabwe. Et effectivement, le 4 juillet 2023, Cecilia et Johanna ont été acquittées par la Cour suprême Et donc là, ce qu'on les avait accusés, c'était d'avoir diffusé de fausses informations sur leur disparition forcée. Donc la Cour suprême a effectivement raconté n'importe quoi. Et donc, elle nous envoie un petit mot en mettant « Merci beaucoup aux amis d'Amnesty d'avoir écrit toutes ces lettres. Écrivez une lettre, sauvez une vie. » Et toujours sur la, donc les cas qui ont été présentés l'année dernière, Paraguay, donc c'est Irène Rotella et Mariama Sepulveda. Donc pareil, il y a eu 58 000 personnes qui se sont mobilisées en France pour soutenir leur combat pour la reconnaissance juridique des personnes transgenres au Paraguay. Et en janvier, la Cour suprême a décidé de débloquer l'affaire. La Cour d'appel n'a plus aucune raison pour retarder la décision et pour que les transgenres soient reconnus juridiquement au Paraguay. Donc aussi un petit mot, je dois vraiment dire que l'amour que je n'ai pas connu avant est aujourd'hui quelque chose de très fort. Nous sommes très contentes, très heureuses de tout le soutien reçu lors de la campagne. Et c'est Irène et Mariama. Allez. Didier, tu as aussi des...
J'ai quelques bonnes nouvelles sur les éditions passées des 10 jours pour signer. Donc, une personne qu'on avait défendue dans les 10 jours pour signer, mais c'est un peu plus ancien, ça date de 2019.
Et ça correspond encore complètement à ce qui se passe dans ce pays, c'est...
C'est en Iran, et elle s'appelle Yazaman Ariani. Donc, elle avait été arrêtée parce que suite à la Journée internationale des droits des femmes en 2019. Donc, Yazaman, accompagnée de sa mère, avait courageusement retiré son voile pour traverser un wagon réservé aux femmes en distribuant des fleurs blanches. Elle avait confié son rêve d'un avenir où toutes les femmes auraient la liberté de choisir ce qu'elles portent et où elles pourraient marcher ensemble, moi sans foulard et toi avec. Des instants filmés dont la diffusion est devenue virale en mars 2019.
Voilà, moi j'ai la photo à côté et je me rappelle tout à fait de ce petit spot qui était paru... Oui.
Et je me rappelle aussi qu'à l'époque, on avait fait une information au collège de l'Immaculée avec une classe de 3e. On avait présenté son cas et il y avait des élèves de 3e sidérés qui nous avaient regardé avec des yeux ronds en disant « Parce qu'en Iran, une femme peut être arrêtée parce qu'elle ne porte pas son voile. » Et ils étaient absolument sidérés. Et ça reste sidérant, de toute façon.
Voilà, et de toute manière, voilà, le mouvement après... c'est pas encore fini, mais bon, les femmes continuent, elles sont très courageuses, les iraniennes.
Donc elle avait été arrêtée, elle avait été condamnée à 16 ans de prison pour incitation à la corruption et à la prostitution. Voilà, cherchez le rapport. Donc Yazaman, comme quoi les actions d'Amnesty, ça peut prendre du temps, mais on obtient souvent des bonnes nouvelles. Yazaman, sa mère et d'autres femmes défenseuses des droits humains ont finalement été libérées en février et mars 2023. Donc, bien avant le terme des 16 ans
voilà.
de prison.
Moi, je rajouterais quand même que les femmes iraniennes, ils sont aussi peut-être pour quelque chose.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien évidemment. Et enfin, la dernière bonne nouvelle sur les 10 jours pour signer dont on voulait vous parler, c'est Mohamed El Bakr, qui a été défendu dans notre édition de 2021. Donc, Mohamed El Bakr est un avocat égyptien spécialisé dans la défense des droits humains. Et en septembre 2019, il était victime de fausses accusations de terrorisme et arrêté. Il a été condamné à 4 ans de prison pour diffusion de fausses nouvelles. Et il a été libéré en juillet 2023. Il avait malgré tout presque fait ses 4 ans de prison de détention. Et donc, il était enfermé dans une prison à sécurité maximale. Et voici ce qu'il nous a écrit. « Nous sommes très heureux et très reconnaissants envers toutes les personnes qui ont participé à la campagne de signature. Nous avons beaucoup de chance qu'Amnesty International ait choisi Mohamed. J'aurais beau essayer, je ne pourrais jamais exprimer ce que nous avons ressenti après avoir reçu toute la chaleur et le soutien psychologique que vous nous avez apporté. Nous ne vous remercierons jamais assez. » Et c'est Nehama Isman, la conjointe de Mohamed, qui a écrit ces lignes.
Oui, parce que je pense qu'il faut aussi rajouter que signer, c'est quelque chose, mais ça donne force de soutien pour les gens qui restent qui sont autour, les proches qui sont autour de ces personnes, et que c'est aussi ça qui fait supporter des conditions ou le fait de ne pas savoir ce qui est devenu d'une personne emprisonnée. Donc il faut vraiment se manifester. Et on a, je ne sais pas ce qu'on a cette année, je n'ai pas été voir le matériel, mais on a des fois des cartes postales aussi.
Il y a des cartes postales.
À envoyer pour que ça soit quelque chose un peu plus personnalisé et soutenir les gens autour, comme cette femme-là, pour qui ça a été important.
Voilà. Et donc, si vous avez envie, ben, que parmi les actions qu'on vous a présentées pour cette année, et si vous avez envie d'apporter notre soutien...
Vous devez avoir envie, Didier. Oui, c'est pas possible, après avoir entendu ça, on a une signature. Qu'est-ce que c'est par rapport à leur vie, franchement?
Ce que je voulais dire, c'est que si vous avez envie d'entendre, effectivement, parmi les camps qu'on présente cette année, l'année prochaine, ou dans deux ans, que telle ou telle personne a été libérée, ou que tel ou tel assassin... ou policier assassin ou pas, a été arrêté et jugé, eh bien, venez participer à cette campagne, 10 jours pour signer, qui commence là à la fin de cette semaine et qui va se dérouler pendant le courant du mois de décembre.
Voilà, et moi, je peux rajouter que là, on a lu les textes, mais on a les photos aussi. Et quand on voit en plus le regard de ces personnes, on ne peut que se bouger.
Voilà, on fait la deuxième pause musicale, on se retrouve juste après. De retour, sur l'antenne de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International pour la suite de son émission. Et on vient d'entendre le deuxième morceau d'Anne Passeo, donc en concert le 8, au Théâtre d'Evreux, et ce morceau-là s'appelle Mirage. Voilà. Et c'est Edith qui va prendre la suite de l'émission.
Eh bien, après la présentation des 10 personnes pour qui on va signer, vous allez signer avec nous là jusqu'à mi-décembre. Ben moi, j'avais envie de vous présenter, ben, peut-être mi-décembre, Noël, une idée de cadeau. Voilà, un roman graphique qui s'appelle « Perpendiculaire au soleil », dont l'auteur, c'est Valentine Cuny-Lecalais, et c'est à l'édition Delcourt Ancrage. Donc, ce roman a toute une histoire, parce que cette jeune artiste, Valentine Cuny-Lecalais, raconte son amitié épistolaire avec un condamné à mort américain. Alors, ce qui s'est passé après les attentats de 2015, cette jeune femme qui était alors étudiante aux Arts Déco a cherché un peu de fraternité et elle a rencontré une avocate qui travaille à la CAT. Donc, la CAT, c'est Amnesty, mais avec une option, on va dire, religieuse, simplement.
C'est, oui, enfin,
ben oui, c'est oui pas, parce que c'est chrétiens, c'est l'abolition des chrétiens contre...
Faut préciser un petit peu les choses. Non, je comprends ce que tu veux dire, voilà, mais c'était peu rapide. Voilà. La CAT et Amnesty sont deux ONG différentes, effectivement.
Qui défendent contre la peine de mort.
Toutes les deux, voilà. Les droits humains, effectivement. Mmh. Et la CAT, ça veut dire Association des chrétiens pour l'abolition de la torture.
De la torture et la peine de mort aussi. Donc, elle adhère à un programme de correspondance et elle va écrire à Reynaldo McGirt, un afro-américain détenu en Floride et condamné à la peine de mort à l'âge de 20 ans en 2008. Alors au début, elle dessine donc pour montrer l'appréhension des premiers échanges. La jeune illustratrice se représente avec humour, ensevelie sous une montagne de papier froissé. Elle craint d'être trop bavarde, mais le prisonnier la rassure. « Tes mots, j'en ai besoin. Ça fait tellement du bien de savoir que quelqu'un m'attend. » Et très vite, ils se découvrent une sensibilité artistique commune. Échangent des poèmes, des dessins, des confidences sur leur vie respective. Dans sa cellule de 5 mètres carrés sans fenêtre, Reynaldo rêve de jardin. Alors Valentine, elle peuple ses pages de végétaux. Il lui demande d'être ses yeux pour visiter le monde. Elle dessine le quartier où elle habite, Château Rouge, à Paris. Elle est confrontée à la censure absurde que la prison exerce sur les images. L'artiste déborde les cases, libère son geste pour explorer avec frénésie toutes les techniques. Dessin au crayon, au stylo, peinture, gravure, découpage. Elle opte pour le noir et blanc, réservant la couleur au dessin fleuri de Reynaldo. De ces échanges, naît au fil des ans cet objet hybride, foisonnant, entre récits intimes et enquêtes, un livre puissant où la poésie n'élude pas les pages les plus sombres de l'histoire américaine. Des planches saisissantes rappelant ainsi l'horreur des lynchages de la fin du 19e qui font écho aux exécutions actuelles. Rarement un ouvrage aura fait sentir de manière aussi claire le pouvoir des mots face à la violence carcérale. Quant à l'omniprésence des mains, elle exprime la force du lien et l'impossible contact physique. « J'ai besoin de ton soutien pour maintenir mon humanité », lui écrit Reynaldo. Si ce dernier n'a pas été autorisé à co-signer, ni même à voir le livre, l'autrice l'inscrit durablement dans nos esprits. Alors je vous rappelle, roman graphique, Perpendiculaire au soleil, Valentine Cuny-Lecalais. Et sur ça vient, l'article est dans la chronique du mois dernier, et quand on voit les pages, voilà, ça donne vraiment envie d'aller feuilleter, d'aller lire cet ouvrage.
Et c'est édité chez qui, tu nous
dis ? C'est édité chez Delcourt Ancrage.
D'accord. Ok. Bien, merci d'avoir remplacé notre amie Mina.
On ne remplace pas, pareil.
On ne la remplace pas, effectivement.
Irremplaçable, Mina.
Mais pour les auditeurs qui nous suivent et auditrices qui nous suivent depuis longtemps, c'est pendant longtemps Mina qui a animé les rubriques culturelles.
Elle aimait bien la culture et les livres.
Mais Mina n'habite plus à Évreux maintenant, donc c'est compliqué pour elle de venir toujours aux émissions de radio. Ben, je vais vous faire la publicité pour une autre radio. Enfin, qu'on ne peut pas capter sur les ondes, en modulation de fréquence comme principe actif, mais qui s'appelle Arte Radio, qui s'écoute en fait en podcast sur Internet. Et donc, Arte Radio a fait ce qu'on appelle donc un podcast, donc une émission enregistrée et diffusée sur Internet, et qui s'appelle Comme des oiseaux. Et c'est aussi dans la chronique d'Amnesty International de ce mois-ci. On se rappelle que la chronique, c'est le mensuel d'Amnesty France. N'hésitez pas à vous abonner. Donc, dans cette chronique, il y a cette rubrique « Comme des oiseaux ». On sait qu'au Canada, des populations autochtones, décidément, on parle beaucoup du Canada ce soir, des populations autochtones ont dû laisser leurs enfants à des pensionnats protestants et catholiques. On connaît moins le drame similaire vécu par des enfants amérindiens en Guyane. Entre 1930 et 1980, ils furent environ 2000 envoyés dans des homes pilotée par le clergé avec le soutien de l'État français. Ce podcast fait entendre d'anciens pensionnaires qui furent « oisillonnés », entre guillemets, soit arrachés à leur culture pour devenir de bons petits chrétiens français. Voilà, donc ça s'est passé en France, en Guyane, dans les années entre les années 1930 et 1980, et c'est l'objet d'un podcast d'information qui est diffusé sur Arte Radio. On vous rappelle le titre, ça s'appelle « Comme des oiseaux ».
Et moi, je ne savais pas.
Voilà.
Franchement, voilà.
On a encore un peu de temps, donc Edith, effectivement, profite-en.
Alors, moi, je profite. Eh bien, écoutez, la semaine prochaine, je crois que c'est mardi, commence aux Émirats Arabes Unis la COP 28. Et il y a des organisations dont fait partie Amnesty qui, depuis que l'on sait que ça va se passer aux Émirats Arabes Unis, ont demandé un tout petit peu que ce pays revoie un peu la législation et ses pratiques. Parce qu'en se disant, mais attends, on va laisser ce pays-là diriger la COP, c'est quand même très important, il va y avoir des discussions, il va y avoir des négociations, alors que dans ce pays-là, tout ce qui est société civile et état de droit, c'est une véritable catastrophe. Donc, comment un État serait-il crédible dans la lutte contre la crise climatique s'il continue de resserrer son étau autour de la société civile? Son bilan en matière de droits fondamentaux est catastrophique. Mène des discussions sur les défis existentiels, excusez-moi, les plus graves auxquels l'humanité est confrontée en termes de droits humains, comme la crise climatique, ça nous fait quand même deux poids, deux mesures. Et Amnesty et toutes d'autres sociétés civiles avaient demandé vraiment aux Émirats Arabes Unis de réformer un peu leurs lois, mais ça n'a pas du tout marché. Il y a eu un refus des États, et quand on lit un tout petit peu criminalisation de la dissidence, absence de protection pour les travailleurs et travailleuses migrants, quand on est travailleur migrant, on peut travailler jusqu'à 72 heures par semaine. Voilà, ça semble déjà, ça donne l'idée quand même. Et on n'est même pas sûr d'être vraiment payé, parce que bon, bah, pas si ça vaut le coup, quoi. Alors après, je vous raconte aussi détention arbitraire. Il y a eu des grands procès en 2012-2013. Les gens, ils sont emprisonnés. On peut leur extorquer les aveux parce que ils ont été torturés. Puis après, ce qu'ils ont dit, on dit tiens, c'est pour ça qu'on vous condamne. On peut même aller chercher des gens qui s'étaient réfugiés à l'étranger, comme le pauvre Khalaf al-Ruhamani, qui lui était en Jordanie, mais l'État a demandé à la Jordanie de l'extrader. Maintenant, il est en prison. Et Didier, rappelle-toi, sur les 10 jours pour signer, Ahmed Mansour, 10 ans de prison pour avoir défendu les droits humains, ses conditions impossibles en prison où il n'a droit à rien, il n'a même pas de matelas. C'est dans ce pays-là.
Oui, tout à fait. Bien sûr.
C'est ce pays-là qui va recevoir la COP 28. Bon, cherchez l'erreur et allez voir sur les sites d'Amnesty pour avoir plus d'infos. Mais c'est vraiment, un peu déconcertant, on va dire, ou désespérant. J'hésite entre les deux mots.
C'est les deux. C'est les deux.
Voilà.
Et c'est surtout assez inadmissible, dirons-nous.
Tout à fait. Et ça gêne personne, en fin de compte.
Donc, pour la COP 28, on en reparlera, des prises de position d'Amnesty par rapport au changement climatique et aux droits humains. Mais je vous indique qu'il y a un dossier qui est sorti, il y a 2-3 jours, sur le site d'Amnesty.
On va en parler, on fera une émission.
Qui est très complet, donc ceux qui veulent en prendre connaissance, effectivement, qui s'appelle « Dérèglement climatique, la menace sur nos droits humains », qui reprend, effectivement, toutes les prises de position d'Amnesty, des différents rapports qui ont été publiés. Donc, si vous avez envie de lire tout ce document, parce qu'on n'en fera qu'un tout petit résumé à la radio, si vous avez envie de lire ce document, il est en ligne sur le site d'Amnesty depuis le 23, donc c'est très récent, et ça s'appelle « Dérèglement climatique, la menace sur nos droits humains ».
Oui, mais la problématique qu'il y a là, c'est Amnesty va dire les choses, et ça, c'est absolument très, très important. Mais savoir que les choses vont se réfléchir dans un pays aussi discordant,
bien sûr,
et que le reste des autres pays en sont d'accord, moi ça me choque. Voilà.
Oui, t'es pas la seule. T'es pas la seule.
Bah, faut le dénoncer, faut le dire. Faudrait plus bouger.
T'es pas la seule à être choquée, hein. Donc voilà. Donc on va passer à nos infos locales, puisqu'on va pas tarder à rendre l'antenne pour l'émission Le Laboratoire de notre ami qui vient d'arriver. Effectivement, on lui laissera l'antenne avec grand plaisir, comme à chaque fois qu'on est là le mardi. Et donc l'info locale. Donc on vous rappelle qu'on a cette campagne 10 jours pour signer qui commence. Alors on va être présent. Très probablement le samedi 16 à la Brasserie Sport, puisqu'ils font leur
marché de Noël.
Ils font leur marché de Noël, donc on leur a demandé effectivement d'être présents aussi pour faire.
Je pense qu'ils vont nous autoriser
pour faire
une
signer
petite
les
place.
Pétitions. Mais donc ce sera.
Et venez voir.
Voilà, on est aussi en discussion avec Biocoop, comme on l'était l'année dernière et il y a deux ans, en discussion avec Biocoop. Donc je pense qu'il sera encore tout à fait possible de faire quelque chose de.
On va vous proposer les signatures.
Une journée d'action effectivement dans le cadre de dans leur magasin, mais pour l'instant on n'a pas encore pu arrêter la date. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi les signer.
Il y a d'autres contacts, mais
en venant au concert d'Anne Passeo. Alors, ça fait deux fois qu'on vous en parle, mais au concert d'Anne Passeo le vendredi 8 prochain. Le concert est à 20h, mais nous, on sera présents au théâtre avec un stand aussi consacré aux 10 jours pour signer. On sera présents au théâtre à partir de 19h. Donc, si vous voulez joindre l'utile à l'agréable, dépêchez-vous de réserver vos places parce qu'apparemment il en reste très peu. Mais le concert d'Anne Passeo, donc vendredi 8, nous on est présents à partir de 19h aussi pour faire signer, pour les 10 jours pour signer. Voilà. Et nous on se retrouve sur l'antenne de Principe Actif le mardi 12 décembre. Et puis on sera aussi présent entre Noël et le jour de l'an, je crois. Mais là, je pense que ce sera une émission enregistrée.
Ah, peut-être quand même. On va pas tout vous dire.
Oui, on va vous en reparler. Enfin,
d'être
effectivement.
Devant le micro.
Bon, et vous aurez d'autres informations aussi sur la suite de notre campagne 10 jours pour signer, qui est vraiment notre actualité pour tout le
Internet.
Mois de décembre. Allez voir les pétitions sur Internet. N'hésitez pas. Vous avez plein d'informations. Et aussi, on vous en reparlera dans cette émission du 12 décembre, parce que la campagne ne sera pas terminée pour nous. Voilà. On vous souhaite une bonne fin de soirée.
Alors c'est formidable.
On laisse la
on
place au
laboratoire. On a deux minutes d'avance.
C'est ça.
Claire-Lise, tu vois un peu,
c'est
deux
ça.
Minutes. Wow.
Les gens vont croire que c'est parce que Claire-Lise n'a pas pu
c'est
venir aujourd'hui
voilà.
Qu'on a fini à l'heure. La pauvre, on l'accuse de tous les maux. C'est pas vrai, Claire-Lise, c'est pas vrai. Donc on vous dit rendez-vous le 12. Rendez-vous pour la campagne 10 jours pour signer. N'hésitez pas à nous soutenir sur Internet ou sur nos stands. Et on vous dit bonne soirée et à très bientôt.
Bonsoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.